discours parfait. Alors, parmi les innombrables ouvrages de Philippe, qu'à la fois les romans, des essais, des réflexions sur la littérature depuis maintenant des années, trois livres ont marqué les esprits. Ça a commencé donc avec La guerre du goût. Ça s'est poursuivi par Éloge de l'infini. Et maintenant, c'est le troisième volume qui s'appelle Discours parfait. Si on veut simplifier à l'extrême, on peut dire que non seulement c'est une réflexion de Philippe Solers à travers des textes, des articles et des entretiens sur la littérature, l'art et en général les héros depuis que le monde est monde. Je le disais, ça a commencé avec La guerre du goût. Est-ce que au départ, il y avait cette idée de faire une trilogie en dehors des romans?
Il y a toujours eu le projet très ancien. J'en parlais avec Roland Barthes qui avait ce projet. Mm-hmm. On en parlait souvent. C'est de faire une nouvelle encyclopédie des arts, des lettres, voilà, surtout de la littérature. Pourquoi? Parce qu'on est, dans un moment de mutation très grand, de transformation accélérée. Et pourquoi est-ce que Diderot et les philosophes français se sont dit tout à coup, il faut reprendre tout ça et de redéfinir un petit peu le savoir, les sciences, et pas seulement ça, mais les grands thèmes de la philosophie, c'est l'encyclopédie. Et ça a été une révolution, n'est-ce pas? C'est même la révolution. Il est dommage que la France, qui se cherche désespérément dans une décadence pénible, l'identité nationale, l'identité nationale, c'est l'encyclopédie. Vous comprenez? Il faut revenir, il faut comprendre. Il ne s'agit pas de retour en arrière. Il faut projeter ça vers l'avant avec l'esprit, l'esprit des Lumières, comme on a dit tout simplement. Donc le projet a toujours été celui-là depuis des années. Barthes est mort. J'ai poursuivi son travail. Il a d'ailleurs écrit avant de mourir un texte magnifique sur les planches de l'encyclopédie, qui sont une beauté absolument étonnante. Et donc je poursuis ce travail. Et donc ça, c'est le troisième volume qui essaye d'embrasser autant que possible tout ce qui, tous les âges, parce qu'il y a des textes sur l'Antiquité, et puis sur
Cézanne, sur choses... Van Gogh, sur les fleurs. Voilà. On va en parler. Voilà. D'ailleurs, depuis le début de projet, il y a aussi cette idée qui est assez nouvelle, qui est la pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'il y a question aussi bien de Kooning, le peintre, que de Cézanne, que de Van Gogh, que de Miles Davis, de vous-même, que de Marcel Proust, que de Dante. C'est tous les héros de la culture vus par Philippe
Solers. La question est la suivante. Je crois que nous vivons une époque terrible, d'abord d'illettrisme, d'ignorance. Voilà. C'est ce dont les Lumières ont eu peur. Il fallait absolument Montaigne, lui aussi avait peur, n'est-ce pas? Voilà. Et donc il a essayé de rassembler quelque chose pour le futur. Et donc, vous voyez, c'est l'expropriation des corps, des sensations. Il faudrait que tous les sens fonctionnent pour que quelqu'un soit vraiment vivant. Donc il faut savoir voir, savoir écouter, savoir toucher, etc.
Plein de questions, Philippe Solers. On va reprendre ça. Si je puis dire, dans l'ordre, enfin c'est moi qui vais essayer de mettre de l'ordre, non seulement dans cette trilogie, mais en même temps dans l'ensemble de ce que vous avez écrit, déclaré, raconté et surtout aimé. D'abord, c'est vrai qu'on vous a beaucoup vu, beaucoup entendu, on est ravis que vous soyez là ce matin, mais on a l'impression que ces derniers mois, ces dernières années, un peu comme vous l'évoquez dans Discours parfait chez Gallimard, un peu comme Paul Morand ou un peu comme Ezra Pound, le grand écrivain dont vous parlez en le regardant d'un balcon à Venise, on s'achemine vers un Solers plus silencieux.
Oui, c'est la solitude s'accroît.
C'est vrai ou c'est faux d'abord, sincèrement?
C'est vrai, oui, c'est vrai. Fondamentalement, c'est vrai. Il y a un besoin de concentration de plus en plus fort. Et oui, voilà. C'est-à-dire le bruit du spectacle actuel. On est dans une très basse époque. Écoutez, j'invente rien. D'accord. Une basse époque politique, une basse époque.
Ça ne pourrait pas s'accompagner d'une sorte de désenchantement personnel. Est-ce que c'est du désenchantement ou est-ce que
c'est pas un désenchantement, parce que ça n'a jamais été mon avenir de penser que je pouvais occuper un rôle social important. Non, sans quoi j'aurais fait tout à fait autre chose. Je me serais comporté autrement. Je serais à l'Académie française, si vous voulez, par exemple.
Avec Dormesson. Dormesson.
Oui, mais justement, il n'y a pas de com là. Donc, non, c'était pas ça. Simplement, je trouve que c'est pas du désenchantement. Je veux garder mon enchantement. C'est un enchantement
autour
d'enfance.
De ces héros.
Voilà.
C'est-à-dire le jeune né, parce que ça vous en parlez aussi.
Et autour de cet enchantement que j'ai depuis tout enfant. Donc la société n'est pas favorable à mon enchantement. Ça n'est pas du désenchantement.
C'est le Solers enfant qui, à 12 ans, est emmené avec son école voir le château de la Brède de Montaigne.
Oui, dans le château de la Brette de Montesquieu, oui. et la tour de Montaigne.
Montaigne, justement, où il y a ces inscriptions.
Voilà. Eh bien, j'ai été ça a été un coup de foudre, si je peux dire. Parce que quand j'ai vu qu'un type s'était retiré, alors qu'on s'est gorgé en bas de sa tour, en somme, hein, voilà. J'avais les innovations calviniennes, comme il dit gentiment dans les essais. Quand j'ai vu tout ce type, que ces types s'étaient retirés, et qu'il avait écrit ses formules grecques ou latines sur les poutres de sa tour, donc c'est vraiment une déclaration. Ben ouais, mais il recevait pratiquement personne. Mmh. Il regardait de temps en temps des formules qui le maintenaient en vie. Et c'est lui le grand vivant. Mmh. C'est Montaigne. Mmh. Vous comprenez? Tous les autres ont disparu. Il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de passions. Et finalement, c'est Montaigne. Oui, c'est que lisait Shakespeare avant de monter en scène.
C'est une illumination vous concernant à 12 ans. De Shakespeare, vous dites, parce qu'on va essayer de tout voir, donc on sait ça qui va être intéressant, enfin en tout cas je l'espère, de Shakespeare, vous dites justement, c'est le plus grand.
Oui, je crois, enfin, le plus grand.
C'est vous qui l'avez écrit, c'est pas moi.
Oui.
Le monde tourne.
Il y a quelque chose, la poésie.
Parce que l'encyclopédie, c'est une réflexion, mais c'est aussi un classement.
Oui, ça l'est. Vous comprenez la différence qu'il y a entre la France et tous les autres pays, c'est que vous pouvez dire quel est le plus grand dans telle langue. C'est par exemple l'anglais. Shakespeare. Bon, après ça, tout le monde rame autour. L'Italie, c'est Dante. Vous n'allez pas trouver à ce niveau-là. L'espagnol, c'est Cervantes. Bon, c'est... Tandis qu'en France, vous êtes très ennuyés parce qu'il n'y a aucune littérature qui ait été plus riche, plus contradictoire parfois. Et là, vous êtes embarqués dans quelque chose. C'est pour ça que les Français sont gênés. C'est trop riche, c'est trop vaste, c'est trop vivant. Et comme ils sont en état de dépression, un peu immobilisés, évidemment, ça s'aggrave. Vous comprenez? C'est en France qu'il y a le plus d'efflorescence littéraire. C'est comparable à aucune autre. Culture.
Dans Discours parfait, justement, qui est la suite de la guerre du goût et de l'éloge de l'infini, qui est donc cette tentative d'encyclopédie, on peut même dire, d'ailleurs, pour les plus jeunes, que c'est une sorte de la guerre des Michards extrêmement sophistiquée.
Oui, sauf que la guerre des Michards, c'est nul, et que moi, c'est écrit, voilà.
Voilà. Sophistiqué, je dis, ça n'a aucun rapport. Mais enfin, il y a plein de gens qui peuvent aborder la littérature grâce à vous.
Il faut l'aborder de façon vivante. C'est le contraire du scolaire. Voilà, c'est ça.
Et vous parlez à un moment, justement, de Van Gogh, et vous citer une phrase de Van Gogh à propos justement du fameux autoportrait qui a été interprété d'une manière un peu abusive récemment. Il dit ce qui restera de moi, c'est un peu de la poésie austère, de la bruyère véritable. Et vous ajoutez avis à la fois arrogante de l'art contemporain qui n'en finit pas de vouloir s'aborder Venise. Alors c'est une allusion évidemment à ce qui se passe avec la Biennale et à François Pinault. Ouais. Mais là je fais le parallèle parce que il y a cette espèce de très léger désenchantement. Et dans le premier tome de La guerre du goût, vous avez écrit quand même un énorme article qui s'appelait Saint-Warol, qui était une certaine manière de montrer que l'art contemporain n'était pas non plus éloigné de la littérature. Alors quel est le vrai solaire? Celui qui enchante Warol ou celui qui ne supporte pas Pinault?
Non, il faut, quand on parle d'art contemporain, on n'en finirait plus parce que, en général, c'est, à mon avis, laid. Je parle des Warhol, ça n'est pas laid, c'est une intervention, c'est un critique américain qui le comparait à Manet justement. Il faut des caractères, il faut que vous savez la peinture. Aujourd'hui, on peut être peintre sans savoir dessiner par exemple, ou alors on fait une installation culturelle qui va disparaître quelque temps après. C'est pas sérieux. On peut tricher avec la peinture, on peut tricher avec la littérature. Vous avez 600 écrivains aujourd'hui qui publie à la rentrée, et il y aura à peine 4 ou 5 livres qui s'en sortiront. À la limite, tout le monde est écrivain, sauf moi, vous comprenez. Bon, ensuite, vous pouvez... Il y a un seul endroit où on ne peut pas tricher, c'est la musique. Et c'est pour ça que je suis si passionné de musique, je ne peux pas vous dire... Guillaume, je peux vous faire, je vous assure, je vais m'aider avec quelques camarades, je vous fais une exposition de peinture, elle sera très bien, je vous assure que ça sera vraiment une percée.
Mais est-ce que vous n'êtes pas certain que là, on retrouve quand même quelque chose qui fait, je ne vais pas dire que vous avez vieilli, mais que ça ne vous intéresse plus, car après tout, juger ce qui ne vous intéresse plus, est-ce que ça veut dire que c'est mauvais? Quand Marc Fumaroli met, par exemple, dans son texte sur Paris et New York, l'art contemporain, entre guillemets, il y a peut-être beaucoup de gens que ça fait rire aujourd'hui.
Marc Fumaroli n'a pas tout à fait le droit de le dire, parce qu'il ne s'intéresse pas vraiment aux grandes choses tragiques ou héroïques de la peinture. Moi aussi. Oui. Donc c'est pour ça que...
Vous avez écrit sur de Kooning,
Eh bien, ça... Oui, mais j'ai pas écrit sur de... Par exemple... vous avez des artistes qui m'intéressent. Vous avez Barcello, par exemple, dans l'album de la Pléiade, cette année, c'est Barcello. Bon, pourquoi pas? C'est intéressant, oui. C'est encore... Mais, enfin, je crois que les grandes choses de la peinture ne sont pas vraiment connues. On fait semblant de les connaître, ça se vend très cher, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans.
Depuis la guerre du goût, en passant par justement l'éloge de l'infini et un discours parfait, il y a quand même une sorte de panthéon qui se dessine, parce qu'il y a plusieurs personnages qui... Vous avez écrit Picasso, virgule, le héros.
C'est le siècle de Picasso, le 20e, c'est Picasso, bien sûr.
Voilà, on aurait pu écrire Fragonard, le héros, Rodin, de Kooning, enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup
les
de gens...
les vertus héroïques, comme on dit,
qui reviennent, Chateaubriand, Mozart, Voltaire. Donc, il existe une liste Solers, quand même, qui est peut-être la liste de la littérature mondiale, mais il y a une liste qui vous est chère, parce que à travers les trois livres, on les retrouve. Proust, les trois livres.
Sans arrêt.
Joyce, les trois livres. La Bible, elle est là tout le temps.
Oui, c'est ça. Oui, Homère aussi. Enfin, il y a tout ça. Pourquoi je fais ça de façon systématique? Ça n'a rien à voir, encore une fois, avec un manuel scolaire. Il y a un texte sur la confusion des manuels scolaires aujourd'hui. Vraiment, dans les écoles, à l'enseignement. Terrifiant. Donc, je fais ça pourquoi? Parce que je crois que toutes ces grandes choses sont en danger, que les morts sont en danger, qu'il y a de l'oubli, qu'il y a de l'ignorance,
qui engendre. Vous l'écrivez d'ailleurs dans le discours
fanatique, et que tous ces gens sont en danger. Encore une fois, c'est la même attitude que Montaigne qui croyait que la culture était en danger, ou que celle des encyclopédistes français, qui ont pensé que tout ça était en danger, qu'il fallait redéfinir vite. Les points les plus importants, parce que les concepts eux-mêmes étaient en train de changer, la science a progressé. Voilà, qui vit vraiment au 21e siècle avec quelque chose qui vient complètement du passé? Le passé n'est pas passé, le passé a été, il continue d'être, c'est ça. Au 21e, qu'est-ce qu'il y a? Probablement une tentative assez tyrannique, même tyrannique tout court, technique, d'éradiquer le passé. Voilà, ça, je trouve que c'est très, très, très gênant.
D'ailleurs, de ce point de vue-là, vous évoquez la politique en disant, on n'imagine pas Louis XIV disant à ses ministres Marie-Antoinette...
Avec Madame de Maintenon, c'est du sérieux.
Avec Madame de Maintenon, c'est du sérieux, oui. Donc c'est une époque que vous... celle qu'on, de ces 3 ou 4 dernières années, ou ces 5 dernières années, vous insupporte.
Elle ne me plaît pas. Insupporté, non, je m'en fous, puisque je vis vraiment à ma façon, et j'en suis très, très content. J'ai réussi à vivre à ma façon. Bon. Donc, j'ai fait à peu près ce que j'ai voulu. Non, je trouve, c'est pas moi qui parle, là, à la limite. Demandez à un Français s'il trouve que la France d'aujourd'hui se porte magnifiquement, je vous assure que vous allez avoir, enfin, vous savez bien. Non. C'est pas ça. Il y a quelque chose, qui n'est même plus une décadence, mais qui est une déliquescence très, très sensible. C'est ça qui me fait peur.
Toute ma vie, on m'a reproché, c'est ce que vous avez écrit donc dans votre ébauche de mémoire, publiée chez Plon en 2007, on m'a reproché d'écrire des romans qui n'étaient pas de vrais romans. Oui. Est-ce que ça aussi, ça vous touche?
C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, il y a souvent des gens, des critiques qui disent, alors, les essais que vous faites, là, c'est vraiment bien, c'est sérieux, c'est vivant, c'est bien. C'est bien souvent parce que c'est paru dans des supports prestigieux comme Le Monde ou l'Observateur. Bon, alors ça c'est mais les romans ça va pas. Alors je leur dis
Femme Paradis.
Voilà, je leur dis c'est exactement le même tissu. Les romans pensent et les essais sont romanesques. Bon, et au fond, il y a des gens qui disent mais voilà la formule. Pour savoir écrire, il faut savoir lire. Savoir lire, c'est en danger. Et tout le monde
était... C'est la démonstration de la trilogie.
Voilà. Pour savoir écrire, il faut savoir lire. Mais, pour savoir lire, il faut savoir vivre. Or, comment on vit pour savoir lire et écrire? Parce que la lecture, ça dépend beaucoup de la vie qu'on mène, tout simplement. C'est pour ça que quand on me dit qu'on n'aime pas vraiment mes romans, je réponds, eh ben, d'accord, c'est votre droit. Mais alors, ça veut dire tout simplement que vous n'aimez pas la façon dont je vis. Et c'est ça.
Mais est-ce que ça vous empêche de vivre?
Non.
Pas du tout.
Pas du tout.
Pourquoi vous avez écrit, d'ailleurs, à plusieurs reprises, dans la trilogie et dans d'autres livres, Picasso, virgule, le héros pour le XXe siècle?
Parce que vous... Ah, je crois, oui. C'est vraiment lui qui... Vous savez, ça...
Donc plus que Proust, donc plus que Céline, donc plus que Joyce.
Non, pas plus, autrement. Parce que les uns écrivent...
Bah, c'est vous qui avez écrit Shakespeare, c'est...
Enfin, c'est très grand que... Ce sont des héros... quand on regarde la vie de Picasso, vous savez, c'est absolument
invraisemblable. Mais il y a la vie, il y a la déconstruction, il y a la reconstruction de la peinture, il y a l'intérêt pour la politique, il y a tout.
C'est fou. Oui. Ouais. Et puis toutes les histoires de femmes qui sont particulièrement intéressantes pour un romancier.
Justement, vous parlez à un moment d'un double portrait de Picasso, de deux femmes enlacées, en disant, c'est amusant dans cette affaire-là, parce que c'est une tradition de la peinture, Manet et les autres, mais bizarrement, André Breton et Louis Aragon, quand ils ont regardé ce tableau, ils ont été persuadés qu'il y avait un homme et une femme, alors que c'est deux femmes.
Ils n'ont pas vu ça.
Erreur historique, et donc erreur sur la sexualité.
Erreur sur Courbet aussi, parce que le sommeil était déjà là, et c'est un tableau, un petit tableau magnifique, que Picasso a offert à Apollinaire.
Oui, absolument.
Apollinaire et dédicacé. Était un peu plus avant. Alors, puisque vous abordez le problème de la lucidité dans les questions dites sexuelles, en effet, c'est un des fondements. C'est là où il faut regarder comment quelqu'un sentir ou sentir mal. Il y a beaucoup d'embarras dans l'art dit contemporain à ce sujet. Beaucoup d'embarras, trop d'embarras, trop de mélancolie, trop de tassement. Non, Picasso, il n'y a jamais d'embarras. Hein, voilà, il arrive et il tranche. Voilà. Donc, ça, en effet, pour savoir vivre, il y a cette question de la lucidité, puisque faut avoir un peu, faut savoir faire ou alors savoir penser ce qu'on fait. Voilà. Prenez dans le domaine public. Alors maintenant que tout le monde s'en empare.
Tous les personnages dont vous parlez, que vous racontez, on a parlé tout à l'heure d'une liste. J'y ajoute Francis Bacon, j'y ajoute la ville de Venise que vous adorez, Bordeaux, l'île de Ré, Tombly, Mallarmé, Artaud, le dernier Aragon, Sartre, Beauvoir, Mauriac, Debord, trois fois mai 68, Faulkner, etc. Est-ce qu'ils ont tous un point commun, pour le lecteur attentif que vous êtes, un point commun? Ces hommes qui écrivent ou qui peignent des tableaux différents, qui ont une esthétique différente, est-ce que pour vous, ils ont tous un point commun?
Oui. C'est une furieuse, courageuse, définitive volonté d'indépendance.
Le jeu plus que l'histoire.
L'indépendance. L'indépendance. Et l'indépendance de quelqu'un maintenu contre vents et marées, parfois de façon tragique. Voilà. C'est un fait historique de la plus grande importance. Voilà. On parle trop des masses, pas assez des individus.
D'ailleurs, vous évoquez Joseph de Maistre, par exemple, qui a été lu par Cioran. Vous parlez de Cioran et de sa jeunesse.
Tout ça, c'est le fil. C'est un fil qui court à travers.
On me dit souvent. Mais jeunesse terrible, car pro-nazi, il apprend le français, il devient un des plus grands écrivains français. Et à la fin, parce que vous dites trop des masses, il met des pancartes sur la porte de chez lui en disant trop de monde, n'entrez pas.
Alors ici, fou furieux.
Fou furieux. Oui. Ce qui est quand même inouï.
C'est pour ça que les questions d'opinion, on essaye de piéger les artistes, les uns les autres, etc., sur leurs histoires politiques, sur leurs engagements erronés, j'en sais quelque chose, les réduire sans cesse à ça, dans le politiquement correct qui sévit partout, c'est se tromper tout à fait, mais volontairement, c'est pour ne pas aborder la question de ce qu'ils ont fait et de leur style, tout simplement. Tout ça, c'est du style. Le style, c'est l'homme même, dit Buffon. D'ailleurs, Buffon est une merveille.
Il est présent au début, puisqu'effectivement, le premier grand article est consacré aux fleurs.
Oui, oui.
On vous voit parler de corolles, de pétales, de pistils, d'étamines, et surtout de retrouver, comme l'a fait Simon Lès, par exemple, avec la mer et la littérature française, de retrouver tout ce qu'on trouve concernant justement les fleurs, de Beckett à Ronsard, ce qui est un énorme travail d'érudition.
Oui, c'est très, très, très intéressant de voir comment... Qu'est-ce qui a été dit des fleurs? Voilà. Et les fleurs, les gouvernements passent, les civilisations même passent, mais les fleurs sont toujours là. C'est Joyce qui dit ça à un moment donné, le film Ransway, vous savez. Ah, les civilisations ont disparu, mais c'est les mêmes fleurs qui sont là. Voilà. C'est ça le problème. Les fleurs sont dans un temps très, très, ouais, de mémoire de rose, on n'a jamais vu mourir un jardinier, mais ça c'est faux. De mémoire de jardinier, on n'a jamais vu la fin des roses. Vous comprenez? Les roses sont toujours là. La rose rouge, par exemple. Alors, donc, ça, c'est très, très passionnant de voir comment les écrivains, les poètes, surtout Rimbaud, Baudelaire, il y a cette phrase de Baudelaire admirable que je cite, c'est les fleurs du mal. Hein, vous savez, les fleurs du mal. Qui le lit avec passion, les fleurs du mal? Et ben, moi, depuis que j'ai 12, 13, 14, 15 ans, ça m'a appris beaucoup de choses, et je continue à me les réciter, les fleurs du mal. L'orage, rajeunit les fleurs. Si on n'est pas sensible aux fleurs, qu'on est perdu, intoxiqué de télé, de spectacles, de politologie, de conneries comme ça, si on ne voit plus une fleur, une seule fleur, si on ne rentre pas dedans, eh ben on est perdu pour la vie.
Le discours parfait est publié chez Gallimard, donc c'est la suite de l'éloge de l'infini et de la guerre du goût. Philippe reste avec nous, Guy Boyer est le patron de Connaissance des Arts. L'ultime triomphe des vanités, bonjour Guy.
Bonjour.
C'est la dernière livraison de votre revue.
Tout à fait, et je buvais les paroles de Philippe ici présent, puisque quand même dans son discours sur la vie, les artistes, les grands points forts de l'histoire de l'art, on les retrouve justement à travers cette histoire des vanités, puisque c'est le sujet d'une exposition qui va avoir lieu au musée Mayol, puisque le musée Mayol maintenant a récupéré l'ancienne équipe du musée du Luxembourg et va faire des expositions de type très international, comme là les vanités, puis plus tard les secrets des Médicis, les trésors des Médicis. Alors cette exposition est doublement intéressante puisqu'elle nous permet de relier aussi bien l'art ancien que l'art contemporain, et Patricia Nitti a justement mêlé les deux fort justement, mettant un petit tiers de l'exposition sur les anciens, puisque l'idée c'est de montrer comment le crâne, depuis l'antiquité la plus ancienne, a passionné les artistes, rappelant aux mortels que nous sommes, hein, memento mori, vous êtes des mortels, n'oubliez pas, la vie est fugace, donc c'est une sorte de rappel constant dans l'art. On verra des Caravage, puisqu'il y a un magnifique tableau de Saint-François avec un crâne, et surtout une large ouverture au XXe siècle. Donc c'est bien parce que c'est une sorte de dépoussiérage de ce sujet qui est sinon un peu ancien. Et c'est pour ça qu'on a fait cette couverture avec le crâne de Damien Hirst, ce crâne qui était parcellé de 8601 diamants et que Hirst n'a malheureusement pas vendu. Mais là, il sera...
Malheureusement.
Oui, on pouvait espérer qu'une œuvre d'art reste dans le temps. Surtout que là, c'était vraiment, et c'est pour ça l'adjectif de l'ultime, moment de ces vanités, c'est que je crois on est arrivé à une subversion la plus totale avec cette œuvre.
C'est passionnant, parce que cette histoire de crâne en effet court à travers les siècles, et tout dépend de la pensée qui est derrière. Bien entendu, on est en pleine métaphysique, en pleine religion. Vous avez un crâne au bas de la croix pour rappeler Golgotha, n'est-ce pas, voilà, pour nous rappeler qu'il s'est passé quelque chose. Et moi, alors, les crânes, il y a des sculptures, une sculpture de crâne de Picasso, qui est absolue, que vous connaissez sûrement, qui est absolument extraordinaire, et qui ne fait pas à n'importe quel moment
non,
de
c'est
sa vie et de l'histoire.
Ouais. À la fin de la guerre.
Et je crois qu'alors les tableaux les plus émouvants de crâne, qui célèbrent la vie à travers la mort et qui affirment que le crâne est en quelque sorte vivant, c'est les Cézanne, qui sont absolument admirables. Vous connaissez ces entassements de crânes de Cézanne. C'est beau comme des pommes, comme des fruits, comme la montagne Sainte-Victoire, c'est pareil, les petites dimensions et les grandes sont confondues, il y a un effort. Et ça, c'est justement héroïque, parce que il n'est pas du tout attiré par la mort. C'est le contraire du morbide. C'est le crâne qui vous... Alors, c'est très, très, très... Hein, parce que c'est comme Shakespeare, voilà. Alas, poor Horatio, I knew him well. Voilà, il est dans le cimetière, il sort un crâne. Voilà. Alors, en effet, là, il faut savoir penser ce qu'on dit si on touche au squelette humain.
Et là, le tableau de Cézanne, si je peux faire une toute petite parenthèse, est intéressant, puisque celui qui est dans l'exposition montre à la fois un crâne, plus une chandelle dont la lumière vient de s'éteindre.
Un tableau précoce,
exactement, très en matière, couillu, comme on disait, couillarde, la peinture couillarde,
oui,
de Cézanne.
C'est ce qu'il a fait de mieux, justement.
Ah oui, mais là, c'est intéressant, parce qu'en fait, le tableau montre le passage entre la vanité de l'Ancien Régime, on va dire, avec des représentations donc de la vie qui meurt, et la représentation du crâne qui prend son autonomie.
Est-ce que vous avez le jeune homme au crâne de Cézanne qui est un...
Je ne suis pas l'organisateur de l'exposition, bon, je ne fais que relayer cette formidable exposition.
L'ultime triomphe des vanités, c'est Connaissance des Arts, discours parfait, c'est chez Gallimard. Merci Philippe Soler de nous avoir accompagnés.
Merci à vous.
Ce matin, passion pour la littérature et les artistes, évidemment.